Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comme une flambée d'enfants à haut potentiel intellectuel, d'enfants intellectuellement précoces, à entendre certains parents si fiers de l'intelligence de leur progéniture, on n'a jamais autant testé et diagnostiqué de surdoués grâce à la psychométrie, du moins dans certaines catégories socioprofessionnelles. Dans le même temps, des livres consacrés à ces enfants précoces, que l'on appelle parfois zèbres, envahissent les libraires. Les librairies, certains auteurs évoquent leur psychologie différente des enfants atypiques qui connaîtraient l'échec et la phobie scolaire ou encore des difficultés émotionnelles, et une idée reçue voudrait que leur fonctionnement cérébral soit différent du commun des mortels. Comment expliquer cet engouement pour les tests d'intelligence? Comment fonctionne ce marché? Quelles sont ses dérives et ses conséquences parfois dangereuses? Éléments de réponse avec nos experts. Si vous avez fait passer un test de QI à votre enfant, si votre progéniture a été étiquetée intellectuellement précoce, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, à témoigner sur la page Facebook de l'émission et à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Géographie, 20 sur 20.
Oui.
Français, 20 sur 20. Anglais, 20 sur 20.
Ben, celle-là, tu vois, va partir, celle-là.
Mathématiques, 21 sur 20.
Ça va pas.
Fais de toi. Quoi? Tu t'excuses?
Famituche, vous êtes sous le choc, c'est normal, mais il faut vous rendre à l'évidence. Votre petit Donald, là, est un surdoué. Un killer. Une grosse tête. Je n'ai jamais vu ça. Je vais certainement lui faire sauter une classe, peut-être même deux ou trois.
Monsieur Van Brink, mon fils, il a peut-être triché. Mais c'est pas une raison pour vous foutre de sa gueule.
Faut pas le traiter de surdoué, c'est pas gentil, ça. Il a triché. Bon, ben, il le refera plus, hein, que tu le referas plus. Hein, mon canard.
Y a-t-il vraiment de plus en plus d'enfants surdoués? Pour répondre à cette question, trois invités. Bonjour Jérôme Pélissier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute, chercheur en psychosociologie. Et vous publiez chez Duno un livre passionnant qui risque de faire grincer des dents. La fabrique des surdoués, dangers et impostures du marché de l'intelligence. Bonjour Nathalie Claubert.
Bonjour.
Et Nicolas Gauvry.
Bonjour.
Nathalie Claubert, vous êtes philosophe de formation, psychologue clinicienne. Nicolas Gauvry, vous êtes enseignant-chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lille. Et vous publiez ensemble chez deux books, Psychologie du haut potentiel, plutôt à destination des professionnels, mais qui connaît un certain succès chez le grand public, Nathalie Claubert.
Oui, tout à fait, effectivement, c'est une des surprises du livre. C'est un livre collectif, donc avec 48 auteurs participants, hein, c'est vraiment un gros boulot de consensus. Et à notre surprise, le grand public, les personnes, les parents aussi, s'intéressent à l'ouvrage comme un gage en fait de scientificité, voilà, de sérieux, ce qui des fois est difficile à trouver sur le marché des livres, on va dire, destinés au grand public sur le haut potentiel.
Comment vous expliquez ce succès chez le grand public? Nicolas Gauvry, un ouvrage de près de 700 pages, très dense.
Ah ben c'est vrai que c'était pas destiné au grand public et que la lecture peut être un peu ardue. Alors on est très content que ça plaise au grand public. Et alors on s'est retrouvé porté par une nouvelle vague de modes de haut potentiel. Je pense, quand je regarde un peu l'histoire, on essaie de retracer l'histoire de l'engouement pour le haut potentiel. Alors on voit bien la naissance dans les années 70-80, comment c'est venu lentement. On voit bien un renouveau dans les années 2000. Peut-être un recadrage autour de 2010. Mais par contre, l'espèce d'explosion qu'il y a en ce moment, là depuis un an, j'avoue que moi, je me l'explique pas très bien. J'ai l'impression qu'il y a un grand boom qui revient à nouveau. Je ne sais pas pourquoi.
Jérôme Pélissier.
Je sais pas, ça me paraît être une très bonne nouvelle. Déjà, ça montre peut-être que les parents des enfants dits surdoués, qui ont souvent été dépeints comme des gens juste ayant des problématiques narcissiques et voulant absolument avoir des petits génies, c'est pas ces gens-là. C'est des gens qui s'intéressent à ce qui se passe et qui ont envie de lire des vrais livres qui parlent de ça. Donc ça me paraît être une très bonne nouvelle.
En tout cas, on est
sortir d'un certain nombre de stéréotypes.
On assiste à une foire lexicale. On parle d'enfants surdoués, d'enfants intellectuellement précoces, d'enfants à haut potentiel intellectuel, les fameux HPI popularisés par la série télé éponyme. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme terme, Jérôme Pélissier?
Ouh là là, c'est pas chaque terme a ses défauts. À un moment, précoce était à la mode, mais ça veut rien dire. Ouais. Zèbre, je trouve ça très bizarre d'appeler des gens d'un nom d'animal. Potentiel, c'est peut-être à la limite le moins mauvais dans la mesure où il dit bien que c'est quelque chose, que l'usage de l'esprit est quelque chose qui n'est pas fixé une fois pour toutes et que ça peut se développer ou ne pas se développer selon ce qu'on en fait.
Nathalie Clobert.
Alors oui, effectivement, il y a différents termes qui ont été utilisés. Alors surdoué, il est maintenant assez connoté hein, quand même. Il y a cette idée de sur qui serait peut-être un trop, et il y a un lien entre le mot surdoué et aussi toute une sorte de caractéristique ou de mythe qu'on a associé, hein, notamment négatif, autour de l'intelligence extrême. Vous avez l'enfant précoce. L'enfant précoce, c'est bien pour les enfants parce qu'on parle d'avance dans le développement, mais en fait les enfants à haut potentiel deviennent des adultes à haut potentiel, et pour l'adulte, on peut pas penser l'adulte avec la notion de précocité. Ça n'a pas d'intérêt. Haut potentiel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce sont des capacités élevées qui demandent à se réaliser. Des fois, elles se réalisent à travers des performances dans la vie, puis des fois pas. C'est-à-dire, vous avez des gens très intelligents sur les tests qui décident de faire autre chose de leur intelligence et qui ne le réalisent pas à travers des performances intellectuelles élevées. C'est pour ça qu'on a retenu le terme de haut potentiel, c'est descriptif.
Pour le dire très très vite, schématiquement, le haut potentiel, c'est celui qui possède un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130.
Tout à fait. C'est l'état du consensus. Ça n'a pas toujours été le cas. Cette question du seuil, effectivement, elle a été l'objet de débats au cours de l'histoire. Et il y a d'autres seuils qui ont été retenus. Alors, actuellement, c'est le consensus.
Jérôme Pélissier, on retrouve à la couverture de votre livre un zèbre. Pourquoi compare-t-on parfois les surdoués à des zèbres? Je rappelle que c'est le seul équidé non domesticable par l'homme et dont les rayures sont uniques. Ça vient d'où cette histoire de zèbre pour parler des enfants atypiques, des enfants surdoués, à haut potentiel?
Je crois que le mot a été lancé, alors je ne sais plus par quel auteur, mais le mot a été lancé par une auteure qui a beaucoup écrit sur le sujet il y a quelques années.
Je crois qu'on doit cette analogie à Jeanne Siofachin qui a publié en 2008 « Trop intelligent pour être heureux ».
Voilà.
Nicolas Gouvry, vous êtes assez sévère avec ce concept de zèbre.
Ben surtout ce que c'est devenu après, c'est-à-dire que moi je ne sais pas quelle était l'intention initiale d'utiliser le terme zèbre, on peut le faire, pourquoi pas, hein. Mais ce que c'est devenu après, quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux, ceux qui se reconnaissent dans le terme zèbre, en général c'est pas la même chose que ceux qui se reconnaissent dans le terme haut potentiel.
Expliquez-nous.
Et c'est connoté, en général, par zèbre, on entend surtout des spécificités qui relèvent de la personnalité. C'est un rapport au monde différent, une hypersensibilité, des choses comme ça, qui sont assez éloignées de ce qu'on appelle au potentiel, en tout cas dans la recherche.
Alors, Jérôme Pélissier, qu'est-ce qui a motivé... Allez-y, pardon.
Non, je disais, il peut y avoir aussi un aspect infantilisant. Enfin, c'est des adultes qui ont décidé d'appeler une catégorie d'enfants de ce nom-là. À ce moment-là, appelons les psychologues des girafes, si on appelle... Non, mais... Allons jusqu'au bout, mais pas d'un côté des humains et de l'autre côté des zèbres. Ça, c'est gênant. Et
Jérôme Pélissier, qu'est-ce qui a motivé ce livre consacré au marché de l'intelligence, au marché des tests psychométriques? Rappelez peut-être en quelques mots ce qu'est un test psychométrique.
Les tests, on a parlé du chiffre de 130, hein, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve, en effet, il y a un test, c'est l'objet de la psychométrie de les fabriquer, qui sont censés mesurer les performances d'une personne à un certain nombre de, un certain nombre d'épreuves. C'est fabriqué, ce sont des tests, il n'y a pas de mesure objective de l'intelligence, hein, on ne peut pas mesurer l'intelligence comme on mesure le poids ou la taille. Donc les tests sont fabriqués pour mesurer un certain nombre de choses et ils sont fabriqués pour que leurs résultats correspondent à ce qu'on appelle la courbe de Gauss, c'est-à-dire que le but étant que la population qui passe le test soit classée en différentes catégories. Donc c'est quelque chose de très artificiel.
Et hein, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre livre ?
Beaucoup les difficultés, les souffrances d'un certain nombre de personnes. Alors beaucoup d'enfants qui ont été étiquetés comme ça et qui l'ont... Alors qu'ils le vivent ou qu'ils l'ont mal vécu, beaucoup d'adultes, moi, qui me parlent de ce qu'ils ont vécu enfant quand ils ont étiqueté comme ça, et avec du coup quelque chose qui a été moins utile pour eux en termes justement de que ça n'a modifié des regards, que ça a créé beaucoup d'exclusion, beaucoup de séparation entre eux et leurs amis ou entre eux et leurs enseignants ou même au sein de la famille, beaucoup de moqueries autour de ça. surdoué, ça paraît être quelque chose de positif. Il y a énormément de moqueries. Il y a des gens qui peuvent plus rien dire, des enfants qui peuvent plus rien dire sans qu'on leur dise, ah oui, si toi qui es intelligent, comment tu peux dire ça, ou au contraire. Enfin, voilà. C'est donc des gens dont ça a vraiment modifié la vie en très sombre.
Alors, certains parents établissent un lien entre quotient intellectuel élevé, échec scolaire, inadaptation sociale, difficultés relationnelles, dyslexie. Est-ce que certains enfants sont hyper doués, sont davantage hypersensibles, émotionnellement plus instables que la moyenne? Est-ce que ce sont des idées reçues, Nathalie Clobert?
Alors, il y a un certain nombre d'idées reçues qui circulent effectivement au sujet du haut potentiel, qui est lié à un biais de recrutement. C'est-à-dire que la plupart des enfants à haut potentiel identifiés le sont, en tout cas en France et en Europe, dans le cadre de consultations psychologiques. C'est parce qu'il y a un souci à l'école ou à la maison qu'on emmène l'enfant chez un psychologue et qu'ensuite on va l'identifier. Effectivement, il va passer des tests, des fois dans ce but-là, des fois dans un but tout à fait différent, et on découvre le haut potentiel par hasard. Voilà, quand on fait passer des épreuves qui évaluent le fonctionnement cognitif. Donc, ça fait que finalement, on a construit une représentation qui est liée à une souffrance. On s'est dit, ce sont des enfants qui sont très intelligents, mais qui viennent avec des souffrances, et différents types de souffrances. Des fois, c'est lié à un portrait de personnalité, des fois, c'est lié à des liens avec des troubles. Et en fait, du coup, c'est une population qui n'est pas représentative de la population générale des personnes à haut potentiel. Quand on voit des études en population générale, on a un portrait qui est beaucoup plus nuancé et assez différent et qui vient nous dire que finalement ce lien entre haut potentiel et troubles, il est vraiment à relativiser parce qu'en général c'est plutôt une ressource, le haut potentiel intellectuel, et beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément identifiés s'en sortent très bien, voilà, et dessinent ensuite des parcours professionnels d'excellence ou pas en fonction de ce qu'ils ont envie, mais il n'y a pas de fatalité là-dedans. Ils ont quand même des caractéristiques, ça on en parlera peut-être plus tard, mais ce ne sont pas des caractéristiques pathologiques.
Quelles caractéristiques, tiens, justement?
Alors, on peut avoir, si on va vraiment regarder en détail, on va avoir, évidemment, tout ce qui a trait à l'intelligence, c'est-à-dire, évidemment, ils sont plus performants, ils sont intéressés par des sujets complexes, ils vont être plus rapides, ils vont pouvoir, effectivement, nous étonner par leur performance. Et vous pouvez avoir aussi des discrètes choses au niveau de la personnalité, mais pas ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, il n'y a pas une hypersensibilité qui va être répandue. Par contre, quand on va faire, quand on va explorer un petit peu plus au niveau de la personnalité, d'autres caractéristiques, on va trouver quoi? On va trouver qu'ils sont en moyenne un peu plus créatifs. Effectivement, la créativité serait plus associée à l'intelligence, mais on peut être créatif sans être intelligent, aussi, c'est pas l'apanage des personnes HPI. Souvent, ils sont aussi plus ouverts à la nouveauté, que ce soit au niveau des idées, au niveau de l'imagination aussi. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver, ça résonne avec la curiosité qu'on attache souvent, aux enfants à haut potentiel.
Nicolas Gauvry, sur cette légende noire des surdoués, sur ces enfants à haut potentiel qui iraient plus mal que la moyenne?
Je pense que parmi toutes les idées un peu négatives qu'on pouvait lire, qu'on lit un peu moins maintenant, je pense que celle qui m'étonne le plus, c'est le lien qu'on pouvait faire entre le haut potentiel et l'échec scolaire. Parce que, évidemment, l'intelligence, c'est une ressource scolaire. Les premiers tests d'intelligence ont été créés exprès pour prédire la réussite ou l'échec scolaire. Et ça fonctionne bien de ce point de vue-là. Et toutes les données qu'on a, et alors là, pour le coup, on en a depuis un siècle sur des millions de personnes, montre que, au contraire, plus le QI est élevé, plus les notes sont élevées. La réussite scolaire est donc associée au potentiel, même si c'est toujours pareil dans les sciences humaines. Évidemment, il y a plein de cas particuliers. Mais donc, il y a aussi des enfants à haut potentiel qui sont en échec scolaire. Ça arrive. Mais la moyenne, c'est pas ça. Et la norme, c'est pas ça. Donc, ça va plutôt dans le sens inverse.
J'ai lu une statistique officielle selon laquelle seuls 1% des enfants à haut potentiel échoueraient au brevet des collèges.
Ça, c'est des données qu'on a étudiées, qui viennent de l'Éducation nationale, qu'on a regardé effectivement pour tester cette idée-là en France, parce qu'il pourrait aussi y avoir des effets culturels. Il se pourrait que dans certains pays, il y ait une valorisation de l'intelligence, et puis dans d'autres, au contraire, que ce soit très mal vu. C'est peut-être, on s'est dit, c'est peut-être le cas en France. Peut-être qu'en France, être intelligent, ça veut dire être un faillot et le chouchou de la maîtresse. Et puis, d'ailleurs, c'est des choses qui, il y a certaines études qui montrent que être à haut potentiel, à certaines périodes de la vie, c'est plus problématique socialement, notamment au collège. Donc au début de l'enseignement secondaire, début de l'adolescence, c'est moins bien vu d'être un bon élève. Avant, c'est bien vu, les enfants sont naïfs, et puis après, il y a le bac à passer. Alors, ils trouvent ça très bien aussi.
Jérôme Pélissier?
Mais tout dépend, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence, tout dépend aussi de comment on la définit. Il y a des intelligences qui ont de fortes capacités d'adaptation. Donc il y a des enfants qui vont utiliser en effet leur intelligence pour s'adapter au type d'intelligence que demande l'école, par exemple, qui est un type d'intelligence particulier. D'autres enfants qui vont avoir du mal. Il y a des intelligences atypiques et ascolaires. Donc, ils peuvent avoir des, voilà, qui peuvent être très créatifs, très imaginatifs, très intelligentes, mais qui n'arriveront pas à coller avec le type d'intelligence que demande l'école.
Et sur la définition de l'intelligence, on peut peut-être paraphraser Saint Augustin quand il tentait de définir le temps. Si personne ne me le demande, je le sais. Si je cherche à expliquer ce qu'est l'intelligence, je ne le sais plus.
Oui, c'est d'ailleurs assez intéressant, y compris les fameux tests de QI, parce qu'on mesure qu'elles... Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, qu'on demandait à, je sais plus, 200 ou 300 psychologues spécialistes dans le monde entier de définir l'intelligence. Ils y sont pas arrivés, il n'y a pas une seule définition commune. On ne sait pas ce que c'est exactement que l'intelligence. Donc, voilà, il y a des petits bouts de choses qu'on essaye de tester, mais de là à savoir ce que c'est...
Et il faudrait des heures pour montrer tout ce qui n'est pas quantifiable ni mesurable dans la vie spirituelle, mentale, intellectuelle, et qu'on ne retrouve pas dans les tests de QI. Je pense à la curiosité, à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence pratique, à l'intelligence du corps, à l'intelligence sociale, à l'intelligence spatiale, à la créativité.
Les tests de QI sont vraiment centrés sur les capacités cognitives, centrés aussi sur la vitesse, sur la rapidité. C'est quelque chose... Culturellement, c'est très intéressant. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose de très nouveau dans notre civilisation, d'associer aussi l'intelligence avec la rapidité. À une époque, penser lentement, c'était plutôt bon signe. Aujourd'hui, penser vite, ça veut dire être intelligent. Ça se discute beaucoup. Et c'est vrai que c'est centré... Tous ces tests-là sont centrés sur vraiment certaines capacités cognitives et mettre de côté, en effet, vous l'avez cité,
les choses
qui peuvent toucher à... qui peuvent toucher à l'humour, qui peuvent toucher à la créativité, à la fantaisie, à l'imagination, à la capacité à être souple intellectuellement, etc.
Et vous écrivez joliment que le rapport poétique au monde est l'exact opposé du rapport psychométrique au monde.
Typiquement la poésie, c'est quelque chose, vous pouvez avoir un rapport en effet très poétique aux choses, aux mots, etc. et être totalement en échec face à un test de QI.
Quoique sur l'humour, je crois savoir que les enfants à haut potentiel sont dotés très souvent d'un sens de l'humour assez développé.
Alors, ils ont un sens de l'humour, c'est surtout... Alors, là, Nicolas Gobry pourrait vous répondre un petit peu plus que moi sur la question de l'humour, mais je crois que c'est un humour un petit peu différent qui est lié aux capacités cognitives, pas forcément plus.
Oui, en fait, ça dépend comment on mesure le sens de l'humour. Mais assez souvent, il y a une composante, on comprend bien, une composante d'intelligence dans le fait d'être capable de comprendre ou de créer de l'humour. Donc, c'est assez souvent, de toute façon, quand on trouve un lien entre une caractéristique comme le sens de l'humour et puis l'intelligence, le lien est a posteriori, on peut se dire, assez évident parce qu'il y a une composante intellectuelle évidente.
À qui doit-on ces tests de QI ? On les doit au français Alfred Binet, Jérôme Pélissier ?
Alors, c'est historiquement oui. Il est donné comme étant celui qui a vraiment. Il y avait des petites tentatives avant en Angleterre notamment, mais il est un peu considéré comme celui qui a entre guillemets inventé, pour peu qu'on invente des choses, mais qui a inventé les premiers tests de QI, qui sont très différents de ceux qu'il y a aujourd'hui, qui n'étaient pas justement, qui n'étaient pas mesurés, qui impliquaient un dialogue avec la personne beaucoup plus qu'aujourd'hui, etc.
Vous expliquez dans votre livre que ce sont les Anglo-Saxons à la suite d'Alfred Binet, qui sont pas exactement des successeurs, qui vont imposer leurs croyances à la mesure de l'intelligence.
C'est-à-dire, après Binet, ça part aux États-Unis, beaucoup, les plus gros travaux après sont aux États-Unis, et là, les tests vont changer énormément. Ça va devenir des tests très courts, avec des questions vraiment où il n'y a pas le choix de réponse, etc. Le but étant qu'ils puissent être fait passer par un très très grand nombre de personnes, alors que Binet était vraiment sur des tests pour essayer de voir la singularité du fonctionnement intellectuel de chaque personne.
Bonjour Pierre, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Toulouse. Quel est votre témoignage ?
Écoutez, pour l'instant, j'ai entendu que des choses très très pertinentes de chacun, donc je ne sais pas par où commencer.
Allez-y, racontez-nous votre histoire avec vos trois filles.
Écoutez, en fait, ça nous est un peu tombé dessus. On est parti en voilier pendant un peu plus d'un an et l'institutrice de Swan, qui est la numéro 2, entre guillemets, nous a dit « Bon courage, vous n'arriverez à rien avec votre fille, elle est nulle, quoi. » Bref. Et mon épouse, on a fait donc le CNED. Mon épouse, qui était infirmière, s'est transformée aussi en institutrice. Et elle a compris, je me souviens très bien du jour, elle m'a dit « J'ai compris comment elle fonctionne. » Alors effectivement, le CNED, si vous voulez, il y a 10 exercices, elle faisait toujours 1, 2, 3 et elle laissait tomber, parce que la suite, évidemment, nous on ne le savait pas, mais elle le connaissait déjà. Et on lui a fait faire donc 1, 5, 10, du plus simple au plus compliqué, et ça marchait très bien, à telle enseigne qu'elle a terminé le CNED, on va dire, 3 mois avant la fin. dans toutes les matières. Même au début, les enseignants par retour du CNED nous disaient arrêtez de faire les exercices à la place de vos enfants, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc en rentrant, on a été voir une psy clinicienne sur Nantes, hein, on était sur Nantes à l'époque, et donc on a fait les tests que vos interlocuteurs ont décrits, et donc on a eu le résultat en termes de QI, tout ce que vous voulez, etc. Je fais juste une parenthèse, j'ai beaucoup apprécié la personne qui a parlé de l'intelligence du corps, et moi je suis un ancien gymnaste, et je pourrais en parler longuement sur l'intelligence du corps, parenthèse fermée. Et donc, là-dessus, la psy nous a dit, écoutez, en classe, elle n'est pas à son niveau, il faut lui faire sauter une classe, voire deux. Et donc, quand on a déménagé ensuite du côté de Toulouse, quand on est entré de bateau, le professeur principal de l'école a dit, mais attendez, vous n'y connaissez rien, c'est nous les enseignants qui savons, on était dans un village, hein. Et on a dit non, il faut absolument qu'elle saute une classe. Bon, elle a sauté une classe et les notes étaient toujours aussi mauvaises. Mmh. Et donc le prof a dit, voyez, il ne fallait pas lui faire sauter une classe. Et nous on a dit, si, il faut absolument lui faire sauter une deuxième classe. Donc là, évidemment, on nous a traités de fous, tout ce que vous voulez. Et donc la directrice qui était intelligente, elle a dit, écoutez, au risque, au pire, qu'est-ce qu'on risque? Qu'elle redouble. Et donc elle a fait ce pari et elle a terminé avec plus de 17 de moyenne. Mmh. Voilà, CQFD. Donc, elle était à son bon niveau et elle ne s'ennuyait plus, surtout. Mmh. Alors, c'est vrai que quand on était en voilier, pourquoi elle aimait le voilier, c'est qu'elle avait l'horizon et elle a toujours posé des questions sur l'espace, sur le spatio-temporel. Et elle trouvait tout à fait son développement, son déploiement en voilier, où l'horizon et les rencontres... Et puis elle a appris l'espagnol également très vite, parce qu'on lui a fait prendre des cours d'espagnol dans une île, des cours de voile, pardon, de dériveur dans une île, etc.
Nathalie Clobert, que vous inspire le témoignage de Pierre?
Ça m'inspire qu'effectivement, il y a des enfants qui sont très en avance, qui ont vraiment des capacités intellectuelles importantes, et pour qui le système classique est a souvent du mal à répondre. Alors ça va dépendre, hein. Bien sûr, il faut pas généraliser en fonction des écoles, en fonction des équipes éducatives. On a des initiatives parfois très intéressantes qui se mettent en place, mais il existe des adaptations pédagogiques pour les enfants à haut potentiel, hein, qui sont souvent plus pratiquées outre-Atlantique, mais qui sont aussi pratiquées ici dans certaines écoles. Et l'accélération scolaire, notamment ce qu'on appelle le saut de classe, finalement, est souvent une bonne réponse. Alors, bien sûr, toujours individuellement, en fonction de l'enfant, de sa personnalité, de l'équipe aussi qui est autour et qui est prête à porter le projet. Bien sûr, c'est toujours une décision individuelle. C'est pas une règle générale. Mais donne souvent de bons résultats, contrairement à ce qu'on pense, hein, même si c'est pas le cas toujours. Il faut toujours vérifier un certain nombre de paramètres. Et puis, ce qu'évoque le papa, là, en disant qu'il lui a fait faire d'autres choses, finalement, développer d'autres centres d'intérêt, ce qu'on appelle de l'enrichissement. C'est aussi une des mesures pédagogiques. C'est très important aussi à mettre en place, et ça permet aussi parfois de pallier des fois à ce que l'école n'apporte pas toujours à l'enfant au potentiel.
Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé ce matin. Tiens, écoutons une note vocale que vient de nous laisser l'humoriste Thomas Croisière.
Salut Alice, c'est Thomas Croisière. Moi aussi avant je pensais que mes enfants étaient surdoués, j'en ai même fait des chroniqueurs sur France Inter, mais pendant le confinement je leur ai fait l'école. Et là, j'ai en fait juste constaté qu'ils étaient chiants et qu'ils avaient leur capacité de concentration d'un poisson rouge. Donc non, mes enfants ne sont pas surdoués.
Allez, comme Thomas Croisière, n'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, vous verrez comment fonctionne le marché parfois lucratif du haut potentiel intellectuel. On s'intéressera également à ses dérives. En attendant, on écoute Elis Regina, Agace des Marceaux.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma cor,
é um conto,
é um
estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é o resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
oide,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, pá,
pá,
pá, de barziza,
zá,
zá, ziza.
Elis Regina interprétée Agua de Marzo.
Non, à 6 ans et demi, elle apprend l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol.
Du saxophone.
Grand bien vous fasse.
De la guitare. De la flûte traversière et.
Ali Rebéi.
Bien sûr, le chinois, ça aujourd'hui.
Nous, Lucien, il parle français.
Sur France Inter.
Eh ben, c'est bien déjà.
10h33, y a-t-il vraiment plus d'enfants surdoués qu'il y a 20 ou 30 ans? Élément de réponse avec nos invités, Nicolas Gauvry et Nathalie Clobert, qui publient Psychologie du haut potentiel et l'auteur de La fabrique des surdoués, Jérôme Pélissier.
Votre fils est de toute évidence un peu plus vif que ses camarades. Quant à la petite dernière...
Pour moi, elle est parfaite, c'est la mienne, voilà.
À tel point que la question se pose. Votre enfant ne serait-il pas surdoué?
Oui, ça m'est déjà arrivé de me poser la question.
Ça ferait plaisir aussi de se dire, bah tiens, il est peut-être surdoué. Donc c'est vrai que du coup, ça donne envie aussi d'aller dans cette voie-là. Et c'est tellement facile parce qu'on en entend tellement parler.
HPI pour haut potentiel intellectuel. Le terme est à la mode. En général, il se confirme à partir d'un QI de 130. Mais seulement 2,3% de la population ferait partie de ce club très fermé. Ce directeur d'école ne compte pourtant plus les parents qui viennent le voir et s'interrogent sur leur enfant.
Nous, à l'école, ça peut être, ah, on trouve que mon enfant s'ennuie, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'on constate qu'on a de plus en plus d'enfants qui passent des tests. Pas forcément à notre initiative.
Si l'enfant est bien dans son niveau, l'école n'incite pas à faire de tests de QI. En revanche, cela peut être utile pour mieux comprendre un élève au profil atypique.
Extrait d'un reportage diffusé sur LCI en 2021. Comment expliquez-vous que de plus en plus de parents souhaitent faire passer des tests de QI à leurs enfants? C'est une forme de vanité, d'inquiétude, Jérôme Pélissier? Votre regard.
Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons différentes. Tout à l'heure, on a évoqué un peu l'ennui. C'est clair que pour certains parents, il y a cette question de l'ennui. Le souci là-dessus, c'est qu'il y a quand même probablement autour de 60% des enfants qui s'ennuient à l'école. Et je pense à peu près autant de professeurs d'ailleurs. mais voilà. Du coup, c'est pas tous les enfants qui s'ennuient qui vont. Mais probablement, ça joue. Les difficultés scolaires et la question de l'ennui jouent.
Nathalie Clobert.
Oui, effectivement. Concernant l'ennui, vous avez raison, c'est que beaucoup d'enfants s'ennuient à l'école, sauf qu'ils s'ennuient pas pour les mêmes raisons. Mmh. Voilà. Des fois, c'est parce que c'est pas assez difficile. Des fois, c'est juste parce que ça les intéresse pas. C'est pas les mêmes raisons. Il y a un phénomène de mode, hein, de toute façon, d'accès à l'information. Alors, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire, bien sûr. C'est-à-dire que de plus en plus, le haut potentiel qui avant n'était pas très connu devient de plus en plus connu, de plus en plus médiatique. Des fois associé avec des signes qui ne sont pas ceux du haut potentiel, comme on a dit, les souffrances psychologiques ou l'hypersensibilité. Et dans ce cas-là, on va avoir des larges phénomènes de questionnement de la part des parents, avec des fois une volonté de vouloir trouver des réponses à la souffrance ou aux difficultés de leurs enfants. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement parce que on a envie de donner le meilleur à son enfant et qu'on se rend compte que peut-être le système éducatif classique lui apporte pas assez, ce qui peut être vrai dans certains cas. Ça peut être des interrogations très saines, comme des interrogations, on va dire, plus anxieuses au sujet de cette question de donner le meilleur à son enfant. Après, bien sûr, le souci, c'est que ça nous amène à parfois beaucoup de désillusions, puisque le chiffre, lui, ne bouge pas, 2,3% de la population. Il est stable, par définition.
Tiens, Nicole nous demande justement combien d'enfants surdoués en France, est-ce qu'il y en a davantage qu'il y a 25 ou 30 ans ?
Normalement, non. Maintenant, il y en a davantage qui sont repérés, dans la mesure où avant, on faisait passer moins facilement des tests à son enfant, et en tout cas pas spécialement pour ce motif. Donc, de fait, on en repère plus, mais au niveau de la population générale, il n'y en a pas plus.
Il y a un chiffre qui revient fréquemment, vous l'avez cité, il existerait en France 2,3% de personnes à haut potentiel. Jérôme Pélissier ?
Les tests sont étalonnés pour donner ce résultat-là.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que, de toute façon, quand on étalonne en test, on prend 100 personnes, on leur fait passer le test, et on considère que le test est bon si ça montre qu'il y a 2,3% de personnes qui ont plus de 130. Donc, de toute façon, voilà, même si demain on faisait passer le test à que des gens dits surdoués, on va réétalonner le test de telle manière que parmi ces surdoués, il y en ait 2,3 qui passent au-dessus des autres. La courbe de Gauss, c'est l'objectif de ces tests, et que le résultat soit corresponde à une courbe de Gauss. Voilà, avec 2,3% de. Donc de toute façon, ils sont étalonnés.
Nathalie,
pour ça.
Nicolas Gauvry?
Oui, je pense qu'on n'est pas tout à fait raccord sur les tests de QI, même si évidemment ce ne sont pas des outils parfaits. La courbe de Gauss, elle apparaît parce que à chaque fois qu'on fait passer des tests,
expliquez ce qu'est la courbe de Gauss pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Ouais, alors c'est quand on regarde la distribution des notes aux tests de QI, la moyenne c'est 100, il y a beaucoup de gens autour de 100. Donc la plupart des gens se trouvent entre 90 et 110. Ouais, des choses ordinaires. Et puis, plus on s'éloigne de la moyenne, plus ça baisse. Et 130, ça devient assez rare, à tel point qu'il n'y a que 2,3% de la population au-dessus de 130. On n'a pas créé les tests pour qu'ils suivent une courbe de Gauss. En fait, la courbe de Gauss apparaît à peu près automatiquement à chaque fois qu'on multiplie des indices. Et dans les tests de QI, il y a beaucoup de petites épreuves. Et quand on fait ça et qu'on additionne le tout, mathématiquement, ça tend nécessairement vers la courbe de Gauss. Et d'ailleurs, les tests de QI ne suivent pas exactement la courbe de Gauss. Ils ont une variance un peu trop grande, il y a un peu trop de monde au bout. Donc c'est pas tout à fait une courbe de Gauss, mais ça y ressemble. Après, quand on dit sont créés pour qu'on trouve 2,3%, on pourrait dire les choses autrement, même si ça revient au même si on veut, c'est qu'on a fixé un peu arbitrairement le seuil de 130 qui donne 2,3%. Mais on aurait pu très bien choisir 120 ou 145 et ça donnerait des pourcentages différents.
Alors quels sont les tests les plus utilisés et comment sont-ils fabriqués ? Il s'agit du test de Wechsler, c'est ça, Nathalie Clobert ?
Oui, ce sont les échelles de Wechsler qui sont les plus utilisées, même si ce ne sont pas les seules. Ce sont des batteries complètes d'évaluation de l'intelligence.
Qu'est-ce qu'on évalue avec ces tests-là ?
Alors on évalue différentes capacités qui font partie de l'intelligence, puisque l'intelligence, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est composé de beaucoup de capacités différentes. Et on va retenir un certain nombre de capacités dans l'évaluation de l'intelligence. Alors bien sûr, comme c'est limité en temps, on ne peut pas tout évaluer. Donc forcément, il y a un choix qui restreint un petit peu les éléments qu'on évalue. Notamment, par exemple, la créativité, où il n'est pas beaucoup prise en compte dans cette évaluation. Il y a d'autres choses qui ne sont pas prises en compte. Mais globalement, on a quand même une idée. Voilà, c'est des années de recherche. On a quand même une idée assez fiable des capacités intellectuelles de la personne. Maintenant, le fameux chiffre de QI, c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Souvent, on se fixe là-dessus. Il faut bien retenir que quand on passe un test de QI, c'est un peu comme quand on passe un examen. On peut être plus ou moins en forme. Voilà, alors même si ça ne nécessite pas de réviser, je fais juste la petite parenthèse, on ne va pas réviser pour passer un test de QI, c'est différent, mais on peut avoir des performances légèrement moins bonnes, légèrement meilleures en fonction de notre état et du moment. Ce qui veut dire qu'on va souvent donner le résultat sous forme d'un intervalle de confiance, plus ou moins 10 points. Vous voyez, par exemple, 125, 135. C'est important de garder en mémoire, finalement, qu'on se situe sur un intervalle de confiance à peu près. C'est pas un chiffre qui va vous déterminer comme ça, de manière essentielle. Et le plus intéressant, c'est pas tellement le résultat du QI, c'est finalement plutôt le fonctionnement cognitif global. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce test, quelles sont vos capacités spécifiques et comment vous fonctionnez, parce que à Q égal, vous pouvez avoir des résultats très très différents et des profils extrêmement différents.
Et d'ailleurs, quels sont les principaux biais qui peuvent entacher les tests d'intelligence, Jérôme Pélissier, un test de QI peut être différent d'un moment à un autre de la journée, de la semaine, en raison d'un ensemble de facteurs. Je pense aux variations de l'attention selon voilà le moment de la journée. Après, on peut vous rétorquer que toutes ces variables sont présentes chez tout le monde et que ça met finalement tout le monde à égalité.
On peut de toute façon, oui, mais de toute façon, oui, les résultats attestent des pans beaucoup en effet du moment de l'année, de l'état psychologique, de l'attention. Vous l'avez dit, tout ça. De toute façon, en plus, on n'est pas censé le passer plusieurs fois dans l'année puisqu'il y a des effets d'habituation, etc. Mais je crois surtout, c'est un peu le miroir aux alouettes. Enfin, faut pas se concentrer, faut pas être obsédé par ces tests de QI. L'intérêt, c'est en effet, oui, Curie, Marie Curie, oui. Mais elle est jamais loin. Quand on parle d'intelligence, mais voilà, y a non seulement au sein même des tests de QI les différentes capacités cognitives que ça teste, et au-delà des tests de QI, il y a les différents types d'intelligence et les différentes capacités mentales. L'essentiel, c'est quand même l'usage qu'on fait de notre esprit. C'est pas la mesure, c'est pas la quantification de certaines performances.
Est-ce qu'on est testé selon les mêmes critères à l'âge de 4 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 70 ans, Nathalie Clobert?
Alors, les échelles d'intelligence prennent en compte l'âge, effectivement, de l'enfant. Alors déjà, il y a des tests spécifiques pour les moins de 6 ans. Hein, et il y a des tests ensuite pour les enfants et les adolescents.
Celui-là, je pourrais le passer, là, celui pour les moins de 6 ans, je pense.
Il faudrait les étaler. On n'aurait pas l'étalonnage selon votre âge, je pense, sauf si on triche. Donc, ce ne serait pas forcément pertinent. Mais ensuite, vous avez le WISC, qui, lui, est destiné aux enfants et aux adolescents. Mmh. Et vous avez la VICE, qui est destinée aux adultes. Et à chaque fois, vous avez un étalonnage en fonction de l'âge, parce qu'il se trouve qu'en moyenne, on n'a pas tout à fait les mêmes capacités cognitives en fonction de notre âge.
Combien coûte en moyenne ce genre de test selon le site Doctolib sur 3953 psychologues référencés? 16% proposent des tests de QI et les tarifs varient entre 200 et 600 euros, c'est ça? Nathalie Clobert, c'est...
Oui, on pourrait dire 250 à 500 en fonction du professionnel, du type de prestation.
Ce sont des psychologues qui les font passer.
Alors, de toute façon, il faut toujours aller vers un psychologue, effectivement. Vérifier le titre, voilà, et les compétences. C'est très important parce que autour de cette question du chiffre du test de QI, il y a énormément de dérives parce que c'est un marché qui est florissant. Et donc, il faut vraiment le pratiquer avec une déontologie particulière. C'est beaucoup de travail quand c'est fait par un expert et en conscience.
Jérôme Pélissier.
Non, rien à ajouter, il faut...
Quel genre de dérive, tiens, justement?
Alors, les dérives, voilà, moi je considère qu'en partie, de toute façon, les tests de QI, s'ils sont faits passer sans une évaluation globale du fonctionnement de la personne, pour moi, c'est déjà une dérive, ça. Voilà. Donc, même un psychologue ou une psychologue clinicienne, si elle fait juste passer le test, si elle donne en effet juste un chiffre, comme madame l'a dit, et non pas une fourchette, si elle accompagne pas ça d'une évaluation globale de la situation de la personne, etc., on est déjà dans quelque chose que je considère être une supercherie.
Et je cite l'article 19 du code de déontologie des psychologues, qui date de 1996, en tout cas la dernière version. Le psychologue ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus. Et pour vous, Jérôme Pélissier, mieux vaut fuir les psychologues qui ne respectent pas absolument cet article du code de déontologie des psychologues.
Ah oui. Sinon, on est dans vraiment, et puis dans des effets forts d'étiquetage, avec des personnes en plus qui peuvent croire que ce qu'on a trouvé à un moment donné va agir sur la vie entière de la personne ou va modifier tout un tas d'aspects de sa vie.
Bonjour Mylène, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour à Ali Rebelli et bonjour aux invités. Mais voilà, moi j'aimerais excusez-moi, j'ai un peu la voix qui tremble, mais j'aimerais témoigner parce que mon fils a été détecté au potentiel en CE2, donc il avait 7-8 ans. C'est pas du tout nous qui l'avons demandé, il était suivi chez un orthophoniste qui nous a dirigé vers une psychologue en disant il faudrait peut-être aller la voir. Donc nous sommes allés la voir, il n'avait pas du tout de précocité à l'école, hein. C'est une scolarité tout à fait normale, et donc détecté au potentiel en CE2. J'ai suivi des cours avec la psychologue sur les parents d'enfants à haut potentiel, mais en fait c'est un calvaire d'avoir un enfant au potentiel. J'entends des témoignages et c'est tant mieux pour ces personnes-là, j'aimerais tant être celle-là. Mais moi, j'ai un enfant qui a aujourd'hui 15 ans, une scolarité complètement caca depuis le collège. L'école, ça l'intéresse pas. Il adore le foot. Alors là, il est excellent en sport, excellent en tactique, excellent là-dedans. Mais l'école, c'est pas du tout son truc. À la maison, c'est des colères comme c'est pas possible. Et ce qui fait qu'on ne sait plus comment faire avec notre enfant, on a perdu, c'est ce que je disais, notre spontanéité. On est paumé complètement. Et j'aurais préféré peut-être ne jamais savoir qui pouvait être au potentiel. Parce que derrière ça, moi j'essaye toujours de relativiser. Donc il est au potentiel, donc il est hypersensible, il a horreur de l'injustice. Mais j'en ai marre de me poser 10 000 questions, j'en ai marre en fait.
Nathalie voilà. Clobert, que répondre à Mylène?
Oui, mais... Alors bon, ça, ce sont des situations qui sont toujours effectivement délicates. Alors, faut rappeler que chacun est différent. C'est-à-dire que le haut potentiel, c'est effectivement, on parle d'intelligence, mais derrière cette question d'intelligence, vous avez plein d'individus différents qui vont avoir des caractéristiques différentes, un rapport à l'école différent, une personnalité différente. Et ben, des fois, vous avez des enfants avec qui c'est compliqué. Voilà, on est d'accord. C'est pas la généralité des enfants au potentiel, comme l'a très bien dit cette maman, effectivement. Mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut toujours essayer de comprendre individuellement pourquoi c'est compliqué. Donc l'hypersensibilité n'est pas forcément liée, mais ça peut se rajouter. Et dans ces cas-là, c'est une chose à prendre en compte.
Merci beaucoup, Mylène, de nous avoir appelé. Dans votre livre, Jérôme Pélissier, vous fustigez l'étiquetage enfant à haut potentiel et les répercussions dans l'entourage, dans la famille, dans la fratrie, etc.
On a parlé un peu de la liste souvent des stéréotypes ou des idées reçues qui sont associées à ça et qui vont provoquer, qui souvent provoquent des incompréhensions ou des malentendus. Par exemple, entre enseignants et parents, c'est quelque chose d'assez courant d'avoir du coup des dialogues de sourds parce que des parents qui pensent que les enseignants font pas quelque chose de suffisamment spécifique pour leur enfant, des enseignants qui pensent que les parents connaissent mieux leur métier qu'eux. Enfin voilà, et souvent des dialogues de souvent des problèmes aussi entre l'enfant et ses amis. C'est pas rien de porter sur la tête une étiquette qui dit plus ou moins je suis plus intelligent que vous, parce que très souvent c'est connu par tout le monde. Donc ça crée, pas toujours, mais ça crée très souvent des formes d'étiquetage qui amènent des souffrances.
Vous êtes d'accord avec ça?
Alors,
a priori non, à votre tête.
Bah, oui et non, c'est-à-dire je suis d'accord que l'étiquette, elle est toujours un peu à double tranchant. C'est-à-dire que là, dans la façon dont ça va être accompagné en fait avec l'enfant, dont on va mettre des mots, ou aussi avec les camarades, il va y avoir de gros enjeux. Là, je suis d'accord, effectivement. Et des fois, ce fait d'avoir l'étiquette avec toutes les représentations sociales qu'il y a autour. Il faut tenir bien compte de ça, c'est qu'il y a des représentations sociales qui sont pas forcément conformes à ce qu'est véritablement le haut potentiel. Et ben oui, ça peut créer des phénomènes, des fois un petit peu d'exclusion ou de pointage du doigt. Maintenant, souvent c'est un petit peu un secret de polichinelle, un enfant intelligent ça se voit. Pas toujours, mais ça se voit. Vous avez plein d'enfants qui sont, par exemple, pas étiquetés au potentiel, mais qui, quand même, sont les premiers de classe et qui ont des soucis pour d'autres raisons. Et après, ça dépend des compétences sociales, de la manière dont c'est utilisé, dans la manière dont c'est renvoyé à l'autre. Finalement, c'est quand même une information privée qui est sur soi. On n'est pas non plus obligé de le partager avec tout le monde. Et ça se fait si on est en confiance aussi.
Question très sensible. Les riches sont-ils plus intelligents que les pauvres? Jérôme Pélissier. En tout cas, plus la classe sociale augmente, plus on teste les enfants. Ça, c'est une réalité.
Les riches sont plus testés que les pauvres.
Plus testés.
Oui, tout à fait.
Mais après, on peut
tout
faire des interprétations. Les riches sont plus intelligents que les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois bien. Enfin,
j'ai bien lu votre livre.
L'accès aux psychologues, dépend des faits des classes sociales. Après, ce qui se passe, plus on teste tôt, mais avec toutes les limites aussi des tests quand on teste des enfants très jeunes, moins il y a de différence selon les enfants entre les classes sociales. Voilà. En revanche, très très rapidement, comme vous avez des liens, par exemple, entre les activités que des enfants font en famille, des jeux Montessori, le type de jeu, le type de lecture qu'ils font avec leurs parents, et le type de choses qui sont testées par les tests de QI, très rapidement, vous allez avoir des choses qui vont se différencier en fonction, en effet, de la vie de l'enfant et de ses activités.
Allez, on continue à explorer le marché des enfants à haut potentiel. En attendant, on écoute Feu Chatterton, qui interprète Compagnon.
Bagarre. compagnons des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniches. C'est une musique qui plaît.
J'aurais dû nous écouter.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne. Je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Feu Chatterton interprété Compagnon.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
10h53, y a-t-il vraiment plus d'enfants à haut potentiel qu'il y a 20 ou 30 ans? C'est l'une des questions que nous posons ce matin. Alors on l'a dit, hein, ce sont les psychologues qui font passer des tests de quotient intellectuel, mais qui sont entre guillemets les charlatans des tests de QI? Beaucoup se sont engouffrés dans ce marché assez lucratif, Jérôme Pélissier. Qu'est-ce qu'il faut fuir?
Fuir les autotests, ça c'est clair, les tests sur internet, enfin qui sont, voilà, ça peut être rigolo mais ça veut rien dire. Et je crois fuir les psychologues, y compris les psychologues qui font passer ça, si en effet elles n'accompagnent pas le test d'une évaluation globale de la situation de l'enfant et de son environnement.
Une question, Nicolas Gorry, vous vouliez...
Ah non, je suis parfaitement d'accord.
Ah ben, très bien. Nathalie Clobert, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux parents qui pensent que leur enfant est à haut potentiel, sont un peu désarmés? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Alors bon, déjà effectivement s'axer plutôt sur des indices intellectuels, hein, cognitifs. Pour relever le haut potentiel, hein. Ça peut être des enfants plus curieux, des enfants effectivement qui ont une avance dans le développement cognitif spontané. Donc ça, ce sont des indices, des qui s'intéressent à des sujets plus complexes, plus sérieux, qui ont des centres d'intérêt qui sont pas les mêmes que ceux de leur âge. Ça va être des vrais signes d'appel, hein, plus que d'autres signes. Les signes de personnalité ne sont pas vraiment des signes d'appel de haut potentiel. C'est beaucoup plus vague. Ensuite, c'est de faire attention à la qualification de la personne qu'on va voir, qui a bien un titre protégé effectivement par la loi. Et de se renseigner un petit peu sur ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'en général, un test d'intelligence, c'est au moins 3 rendez-vous. Hein, voilà. Quand c'est juste l'intelligence, parce que s'il y a d'autres éléments, on évaluera d'autres choses. C'est au moins un rendez-vous d'anamnèse, un rendez-vous de passation et un rendez-vous de restitution avec toujours un compte-rendu. C'est à peu près 10 heures de travail au moins.
10 heures de travail. Bonjour Chrissila Pénédouël.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine et vous nous avez appelé parce que votre fils, qui est aujourd'hui interne en médecine, a passé il y a quelques années un test de QI. Comment ça s'est passé? Vous voulez réagir? Vous êtes pas vraiment satisfaite du test qui a été passé il y a quelques années.
Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Non, expliquez-nous.
Il a été détecté, à la demande de son enseignante en CP, il a été testé avec deux autres de ses camarades en classe. Il a été testé par la psychologue scolaire, qui m'a restitué, d'ailleurs très rapidement au téléphone, ce qui était quand même un peu bizarre, les résultats. Et à la suite de ça, comme mon fils avait de grosses difficultés de sommeil, et elle a demandé qu'il saute une classe, qui a été fait à la rentrée suivante. Mais mon fils avait d'énormes difficultés de sommeil en particulier, et donc nous sommes allés consulter une pédopsychiatre qui s'est tout à fait bien comportée, même si c'était pas exceptionnel, et qui nous a envoyé, alors c'est là que les difficultés ont commencé, voir un certain nombre de spécialistes pour faire un bilan, ce qui était très bien, dont une orthophoniste, et une psychologue. Et nous sommes arrivés chez cette psychologue.
Assez célèbre dans le...
Et là, d'abord on a commencé par attendre environ 4 heures le rendez-vous, puis ça a été extrêmement rapide, et puis un autre rendez-vous a été donné, et je me suis rendu compte, et en fait c'était extrêmement, superficiel, hein. La consultation a été extrêmement superficielle, n'a aidé strictement en rien, en revanche il y avait un monde fou, énormément de parents qui, comme moi, attendaient, qui, comme moi, étaient inquiets pour leur enfant. Et on a attendu des heures, il y a eu un deuxième rendez-vous, je veux dire au passage que non seulement le rendez-vous était extrêmement superficiel, très rapide par rapport aux heures dingues qu'on a attendues, mais en plus c'était très cher, très cher. Et je me suis rendu compte après coup, donc ça n'a strictement servi à rien, il a toujours eu des problèmes de sommeil, il en a encore aujourd'hui, mais je me suis rendu compte après coup, d'abord, un, que nous étions très nombreux parents à essayer de trouver des solutions, et d'autre part, que c'était absolument inutile et que c'était une petite entreprise, en réalité, qui a dû rapporter beaucoup d'argent.
Et pour préciser, Christine Appelé-Douel, il s'agit d'un centre qui existe dans plusieurs villes, on ne le citera pas, mais Jérôme Pélissier, votre regard sur ce qui vient d'être dit? Oui, de la consternation. Nathalie Clouet,
ouais, ça me laisse un peu sans voix, là, j'avoue.
Alors ça, l'idée qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui s'interrogent sur des difficultés de leur enfant. Bon, il est évident qu'un test cognitif ne va pas forcément répondre à un problème de sommeil. Alors, on est d'accord que, il faut quand même se dire que ça ne répond pas à tout, qu'il y a un bilan global qui est nécessaire, c'est-à-dire évaluer d'autres éléments, et que surtout, il faut aussi utiliser les outils traditionnels en psychologie clinique, c'est-à-dire qu'aller voir un clinicien, quelqu'un qui va pouvoir répondre vraiment à la difficulté et prendre en charge vraiment l'enfant, en dehors parfois de cette question de haut potentiel.
Merci beaucoup Christina Pélé-Douel de nous avoir appelé ce matin. Merci Jérôme Pélissier. La fabrique des surdoués, danger et imposture du marché de l'intelligence est publié chez Duno. Merci Nicolas Gauvry et Nathalie Clobert. Psychologie du HPI est publié chez The Book. Demain, grand-mère vous fasse loisir.